BFM Bourse, le club de la bourse.
Les deux clubbeurs du lundi, Christian Parizeau, économiste, conseiller auprès de Aurel BGC. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. D'abord un mot d'actualité, évidemment, l'attaque sur l'État d'Israël ce week-end, qui n'a pas entraîné un mouvement de panique sur les marchés actions. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette relative indifférence des marchés? Le risque était attendu, donc pricé. Est-ce que ce sont les appels à la désescalade qui ont fonctionné, Kevin, à votre avis ?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, ça peut sembler, ou en tout cas la séquence était relativement bien télégraphiée. Hein. Pour rappel, c'est titré en une des journaux américains hein, sur le fait que, on va dire, de l'imminence d'une attaque, limite l'heure précise et où ça irait, ça s'en est une. Je crois que la bonne tenue des marchés financiers, elle tient surtout au fait qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis dans la séquence qui vient de se jouer, c'est-à-dire beaucoup d'espoirs de désescalade hein, dans le contexte qui a pu se dérouler. On a l'Iran qui garde la face, on va dire. Il y a une réponse à l'attaque du consulat. Israël qui garde la face. Il y a une coalition qui s'est mise en place. Ça n'a pas été Israël toute seule qui a répondu à ce qui a pu se passer. Et puis, là aussi, l'administration américaine qui appelle aussi au calme et, on va dire, à la non-escalade du conflit. Donc ça, je pense que c'est un élément. Sans doute qu'on a passé une première étape et que cette première étape, parce qu'il y a quand même plusieurs lignes rouges qui ont été franchies, que cette première étape, elle se passe mieux, en tout cas pas aussi terriblement que ce qu'on pouvait escompter. On ne croit pas chez Carmignac que ce soit la fin hein, de ce qui se passe, mais sans doute une pause dans ce conflit. Et donc les marchés, on va dire, saluent, en tout cas respirent, parce qu'ils pouvaient craindre le pire.
Christian, maintenant l'interrogation, ça reste la réaction de l'État d'Israël.
Oui, la réaction de l'État d'Israël, parce qu'on ne dira pas du tout la même chose si Israël se met à bombarder les installations pétrolières de l'Iran pour empêcher l'Iran d'avoir des ressources financières. On ne dira pas la même chose s'il y avait des sanctions beaucoup plus violentes vis-à-vis de l'Iran de la part de l'administration américaine, puisque c'est un pays qui est sous sanctions, mais on sent que les États-Unis, dernièrement, ont laissé un peu l'Iran exporter un peu plus de pétrole pour justement éviter des trous de tension. Et puis, on ne dira pas la même chose si, de son côté, l'Iran venait à bloquer le détroit d'Ormuz. Donc, tout tourne autour du pétrole hein, pour les marchés. Hein. Je parle vraiment sur l'aspect que marché. Hein. Ouais. C'est vraiment le pétrole qui est au cœur.
Justement, sur le pétrole, on est repassé sous la barre des 90
dollars.
Oui, mais
parce que ça a été joué avant, très clairement. Hein. Si vous regardez les cours du pétrole, on a carrément 10 dollars de prime de risque qui s'est déjà installée sur les cours du pétrole. Alors après, c'est toujours la même chose, parce qu'il y a cette prime de risque géopolitique. Et puis après, si les cours du pétrole restent élevés, ils freinent l'économie mondiale aussi. Donc, il y a l'aspect négatif après que ça peut avoir sur les pays importateurs de pétrole. Un dollar fort plus un pétrole élevé, c'est quand même un élément qui est généralement très négatif pour la demande de pétrole hors États-Unis et donc l'Europe, notamment, entre autres, ou les pays asiatiques.
On en parlera tout à l'heure.
Et donc
avec
forcément,
le niveau de l'euro.
Voilà, forcément, il y a un impact plutôt à la baisse sur les cours du pétrole si, encore une fois, la situation ne s'aggrave pas, parce que tant que les tankers peuvent passer et tant qu'il n'y a pas d'arrêt complet du trafic maritime, on n'est pas dans cette situation. Mais c'est vrai que les marchés vont rester très volatiles parce qu'on n'a pas de visibilité encore sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Kevin Tauzet.
Oui, c'est que si on regarde tout le complexe des matières premières, ils tiennent plutôt bien. Alors il y a une prime géopolitique, certes. Je crois qu'il y a d'autres facteurs aussi. Hein, cette perspective de voir une réserve fédérale, vous y faisiez allusion tout à l'heure, baisser ses taux d'intérêt, alors même que l'économie américaine croit au-dessus de ce potentiel.
Ça n'est encore pas joué.
Non, hein. Mais enfin, c'est ça qui se joue depuis quelques semaines. Hein, oui. La perspective de voir la Chine qui relance d'autre part, un rebond manufacturier qui semble se dessiner. Pour autant, voilà, si on regarde un petit peu sous la surface, il y a quand même pas mal de volatilité sur ces marchés des matières premières. Alors, j'entendais tout à l'heure, vous discutiez avec Stéphane de l'or notamment.
Oui.
On a vu des mouvements vendredi sur l'or. Extrêmement important. C'est censé être l'actif le plus sécur. Voilà, on est passé de en séance à plus de 2% jusqu'à moins 1%. Et ça, sur quelques nouvelles. Alors, importantes certes, mais on voit bien quand même beaucoup d'activités sur ces marchés des matières premières. Marchés des matières premières qui ont sans doute un petit peu accéléré vis-à-vis des fondamentaux. Si on regarde la demande de pétrole, par exemple, elle n'est pas si prometteuse que ça aux États-Unis. Si je regarde la demande, par exemple, de la Chine, les importations de pétrole notamment, sont plutôt en contraction sur le mois dernier. Donc là aussi, il y a sans doute une forme de respiration sur le front de ces matières premières.
C'est intéressant également sur l'or. On aurait pu s'attendre à une flambée dans le sillage, évidemment, de l'attaque contre l'État d'Israël. Là encore, ça n'a pas été le cas. On reste proche de niveau record sur l'once d'or, mais on n'a pas eu de réaction, on va dire, épidermique ce week-end.
Oui, alors c'est vrai, mais l'or est déjà très cher.
Oui.
Il faut quand même relativiser, puisqu'on a quand même des banques centrales qui ont beaucoup acheté d'or. On a eu quand même un attrait de l'or depuis plusieurs mois. Et puis généralement aussi, faut pas l'oublier, l'or a du mal à monter lorsque les taux d'intérêt montent. Lorsque vous avez le choix entre de mettre votre argent dans une obligation d'État américaine qui vous rapporte de l'argent ou dans l'or qui ne vous rapporte rien, il y a quand même un arbitrage à faire.
Stéphane l'expliquait tout à l'heure, c'est un actif qui n'a pas de rendement.
Et là, on a vu quand même l'or monter en étant totalement insensible à la remontée des taux longs. Donc on peut se dire aussi qu'il y a quand même cet effet peut-être de frein de la remontée des taux longs qui reste quand même un élément qui va peut-être empêcher l'or. Mais encore une fois, l'or est quand même déjà assez cher et sur des niveaux très élevés encore.
Dans l'actualité cet après-midi, on va parler du chiffre qui confirme la vigueur de l'économie américaine, les ventes au détail. Plus 0,7% en mars, c'est pratiquement deux fois le consensus. Et les ventes du mois de février ont également été revues à la hausse. Ça confirme quoi ? Qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux aux États-Unis, Christian ?
Oui, alors, juste un petit bémol avant, c'est un indicateur qui est en valeur, n'oubliez pas, donc qui est sensible à l'inflation. Si vous prenez par exemple sur un an, vous êtes sur une hausse de 4%, vous retranchez de l'effet d'inflation, vous êtes en hausse de 0,5%. Donc dans le 0,7, il y a aussi peut-être un peu plus d'inflation qu'on l'avait anticipé, le consensus. Ceci dit, ce bémol mis en avant, en volume, ça reste quand même particulièrement positif. On est sur une consommation qui se maintient, une consommation très dynamique, malgré le fait que on l'a vu vendredi, les consommateurs américains n'ont pas spécialement un moral euphorique. Ils sont plutôt négatifs sur leur pouvoir d'achat, sur leur perspective de revenus. Ils ont quand même des taux d'intérêt sur leur crédit à la consommation à 22%. Ça commence à piquer. Ça commence à faire mal. Ça commence à être un frein pour la consommation. Donc on se dit que quand même ils continuent de consommer malgré tout, et on voit une grande dynamique. On voit aussi un net rebond des achats sur Internet. On voit un net rebond des achats sur certaines biens discrétionnaire, qui n'aurait pas dû être finalement un peu délaissé par les ménages américains s'ils avaient eu un sentiment de pression sur leur pouvoir d'achat. Donc, c'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'ils ont aujourd'hui quand même des salaires qui progressent plus vite que l'inflation, donc ça leur donne un peu de pouvoir d'achat. C'est pas exceptionnel, mais ça leur donne un peu de pouvoir d'achat. Mais on voit quand même une vraie résilience de la consommation, et ça, c'est quand même un élément d'étonnement. Et je dirais que pas d'étonnement seulement pour les économistes, mais aussi pour tous les membres du FOMC, tous les membres de la Banque Centrale Américaine, puisqu'on pouvait lire dans les dernières minutes qu'ils ne comprenaient pas pourquoi cette économie américaine ne ralentissait pas plus. Donc tout le monde est assez étonné quand même de cette résistance de l'économie américaine. Alors, encore une fois, il y a quand même des facteurs de soutien, le marché du travail qui reste tendu, des salaires réels qui sont redevenus positifs. Il y a quand même des choses qu'on explique, mais c'est vrai que quand même on a l'impression que ce consommateur américain reste assez insensible à toutes les pressions qu'il subit quand même, notamment liées à la remontée des taux longs.
Kevin, la consommation aux États-Unis, c'est un thermomètre pertinent. Les Américains, ce sont des consommateurs.
Ouais. Alors les ventes au détail, c'est 20% de la consommation des États-Unis. C'est pas l'entièreté, mais quand même, c'est un chiffre qui est très important. Alors je suis désolé pour l'anglicisme, mais il y a, on va dire, plusieurs phases du jargon financier qui sont difficilement traduisibles. On dit souvent qu'il faut pas combattre la Fed, don't fight the Fed. Je crois qu'il faut pas combattre non plus le consommateur américain, clairement. Et on le voit, c'est-à-dire que toutes les catégories, sous-catégories de ces ventes au détail, quasiment la totalité, sont en progression importante. On l'a dit, le revenu du travail en croissance de plus de 6% sur le premier trimestre. Oui, les Américains consomment. Alors, il y a peut-être 5 week-ends sur le mois de mars, le week-end de Pâques, on consomme. Enfin bon, on doit consommer sur le papier plus de services et moins de biens. C'est pas ce qui se passe. On consomme et des services et des biens. Je crois que ce que ça montre, c'est bien qu'on est dans ce scénario de non-atterrissage de l'économie américaine. On s'attend pas à ce que l'économie américaine, eh bien, on va dire, atterrisse avant le troisième trimestre de cette année. Donc, là aussi, je crois que beaucoup d'économistes, je parle pas pour Christian, mais beaucoup d'économistes n'ont de cesse de décaler quand est-ce que viendra cette récession aux États-Unis, et pour l'instant elle ne vient pas, ce qui là aussi peut mettre en question ce qui est anticipé par le marché en termes de politique monétaire.
Et il y a aussi des anticipations qui ont changé, elles concernent les baisses de taux aux États-Unis. En fin d'année dernière, on était sur 6-7 baisses attendues pour 2024. Désormais, il y a une hypothèse qui se renforce, notamment avec les chiffres d'aujourd'hui, c'est que la Fed opte pour le statu quo jusqu'aux élections au moins.
Oui, alors au moins, c'est qu'on aura un autre chiffre ce soir, alors un indicateur coïncident hein, de croissance économique ou d'estimation de croissance économique aux États-Unis qui sortira dans quelques heures, hein, ce fameux GDP Now de la Réserve fédérale d'Atlanta. Là aussi, tout porte à croire que cet indicateur-là montrera que la croissance américaine est au-dessus de son potentiel. Et donc l'économie américaine continue d'accélérer. Alors, ce qui est anticipé aujourd'hui par les marchés, c'est, on va dire, les deux baisses de taux pour cette année. Sur les 18 prochains mois, c'est 4 baisses de taux. Autant estimé qu'il y en avait 6 il y a de ça 4-5 mois, c'était sans doute trop. Hein. Aujourd'hui, se dire qu'il y en aura seulement 4 sur un horizon 18 mois, c'est peut-être trop peu. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place dans les portefeuilles.
Christian, vous y croyez, l'hypothèse d'un statu quo jusqu'à la fin de l'année ?
Alors non, parce qu'il y a un élément qui me fait dire quand même que la Fed va baisser ses taux, c'est que les taux réels montent énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les taux directeurs américains moins l'inflation, et comme on a quand même un gros mouvement de désinflation qui est assez important, hein, donc vous augmentez le taux réel. Donc vous durcissez encore plus la politique monétaire. Donc tant qu'on est sur un mouvement de désinflation, alors je sais qu'il a ralenti, que les chiffres sont pas bons dernièrement, mais attention que sur l'indice des prix, mais tant que vous avez véritablement un mouvement de désinflation qui se poursuit, vous durcissez toujours un peu plus la politique monétaire. Donc je me dis qu'à un moment donné, ça va quand même avoir un vrai impact sur l'économie et ça laisse un peu de marge à la Banque Centrale Américaine. Maintenant, on parle, attention, si elle baisse les taux, on parle seulement de moins durcir la politique monétaire, mais surtout pas de revenir à une politique monétaire plus accommodante. Hein. Donc faut pas l'oublier. Donc
on reviendra pas à la situation ex ante.
Déjà bon, Monsieur Powell a dit que quoi qu'il arrive, ils sont pas dans cette idée-là. Et puis en plus, ce qu'ils appellent le taux neutre, hein, le taux vers lequel ils pourraient tendre éventuellement pour être neutre sur l'activité, hein, ce taux neutre, ils viennent de le réviser à la hausse. Hein, donc ça montre qu'ils pensent aussi que il va falloir maintenir durablement des taux beaucoup plus élevés pour freiner l'économie américaine. Donc on parle pas on parle plus d'un mouvement technique que véritablement un assouplissement de la politique monétaire. Par contre, c'est important pour les marchés parce qu'à partir du moment où la Fed commence à baisser ses taux, vous réduisez la probabilité qu'elle ait maintenu trop longtemps, trop durablement, une politique restrictive pouvant entraîner une récession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à baisser un peu les taux réels, vous réduisez nettement le scénario le plus mauvais. Alors, il ne se produit pas pour l'instant, mais la probabilité qu'il y ait une récession est quand même beaucoup plus réduite si vous commencez à baisser les taux réels. Donc, c'est quand même important pour les marchés en termes de perspective économique, de risque économique, ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, les indicateurs ne militent pas pour que la Fed se presse pour le faire.
Ouais, je crois qu'il y a quand même, on va dire, la fenêtre de la baisse de taux sur l'été, elle se réduit fortement avec les chiffres d'aujourd'hui. Et c'est vrai que si on se dit à votre question qui était de savoir est-ce qu'il est possible que la Réserve fédérale ne baisse pas ses taux d'intérêt avant le mois de décembre, oui, c'est tout à fait possible.
On est à 202 ou 203 jours des élections américaines.
Et c'est exactement la séquence. C'est-à-dire que cette séquence pour baisser les taux d'intérêt pendant l'été, elle se réduit avec des chiffres de croissance américaine qui tiennent extrêmement bien. Le marché de l'emploi, l'inflation, on l'a dit. Ensuite de ça, il y a une période électorale et on va dire, il est tout à fait probable ou il est possible que la Réserve fédérale le disent qu'elles n'agissent pas pendant cette période pour ne pas être accusées d'interférer dans les élections américaines.
C'est pas une règle, mais c'est une pratique.
C'est une pratique, c'est une possibilité.
Elle l'a déjà fait, hein. Elle a déjà baissé ses taux ou monté ses taux juste avant les élections, mais c'est vrai que la réunion du 7 novembre est quand même un peu compliquée à gérer.
Et donc, ouais. Vous suivez le fil de ma pensée, c'est-à-dire que ça nous amènerait pour une première baisse de taux aux États-Unis au mois de décembre, et c'est tout à fait probable.
Et ce sera bien en 2024, même si c'est vraiment en toute fin d'année. On va voir quelles peuvent être les conséquences justement d'un statu quo, ou en tout cas de très faibles baisses de taux aux États-Unis pour la Banque Centrale Européenne. Mais d'abord, on est à un quart d'heure de la clôture à Paris. Dernière ligne droite, vous l'entendez. Le CAC progresse de 0,3%. Il y a deux heures, on gagnait 1,3%. Ça s'est nettement réduit, cette hausse sur le CAC, plus 0,3%. Toujours parmi les hausses, Stellantis, plus 2%, LVMH, plus 1,5%. Et du côté des baisses, on a toujours Société Générale, Téléperformance et Capgemini pour les valeurs qui reculent. Un coup d'œil sur le Brent, on en parlait tout à l'heure, on est à 89,37 $ sur le baril de Brent et on est en baisse hein, malgré ce qui s'est passé ce week-end au Proche-Orient. On va revenir sur notre discussion et sur les banques centrales. En quoi est-ce que un changement de stratégie de la part de la Fed, c'est-à-dire statu quo jusqu'à la fin de l'année ou de très faibles baisses de taux, limite considérablement les options pour la BCE, Kevin?
Je ne sais pas si là, ça les limite, mais en tout cas, ça le cadre. Pourquoi ? Parce que si, encore une fois, je déroule ce scénario-là, c'est-à-dire une réserve fédérale qui maintient ses taux d'intérêt là où ils sont aujourd'hui, on va dire jusqu'à la fin de cette année. Dans le même temps, on a une Banque Centrale Européenne qui, elle, nous dit qu'elle va procéder à ce que décrivait Christian, c'est-à-dire des baisses de taux pour ne pas maintenir des conditions monétaires dans un territoire qui serait trop restrictif, c'est à côté du mois de juin. Si je projette cette séquence-là, je me retrouve avec un différentiel de taux court entre des taux américains et des taux européens de presque 2% à horizon.
Là, pour l'instant, on est à 100 points de base.
Ouais, à peu près. Et donc, ça nous amène à 2%. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un différentiel de taux qui est bien largement en faveur du dollar américain. Un dollar américain qui peut s'apprécier. Bon, là aussi, si on doit estimer, on va dire, des niveaux, on pourrait dire que ça peut aller jusqu'à 1,05. Si ça va beaucoup plus bas que ça, on commence à avoir de l'inflation importée. C'est-à-dire que là aussi, il y a une dépréciation de 10% de l'euro par rapport au dollar américain. Ça veut dire qu'on importe de l'inflation de l'ordre de 0,4% sur de l'inflation totale. Donc, c'est pas rien. Hein, et ça peut venir relativement rapidement. Donc, ça peut contenir ce que peut faire la Banque Centrale Européenne. Je crois pas que ça va, pour le moment, le contenir. On a bien ce phénomène de divergence de politique monétaire. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Parce qu'on est dans cette phase où on va dire, on évite d'avoir un environnement qui est trop restrictif. Si on avait des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne pour venir vraiment renflouer l'économie, restimuler l'économie, là, ce serait problématique. Pour l'instant, je crois que ça ne le sera pas.
Christian Parizeau, Christine Lagarde disait il y a quelques jours qu'elle était data dependent et non pas Fed dependent, ce qui voulait dire qu'elle était officiellement... Elle ne suit pas la Fed. Cela dit, ça va poser un problème. Si on a un écart de taux entre l'Europe et les États-Unis trop important, ça va, ce que disait Kevin, affaiblir l'euro.
Oui, alors c'est vrai que l'agence Reuters a un peu cassé le discours de Mme Lagarde parce que pendant toute la conférence de presse, elle nous a dit « je me moque de la Fed ». Je grossis très naturellement, je me moque de la Fed, on prend nos décisions.
C'est une question qui l'agace. Hein.
Ah ouais, ça a été posé assez largement durant la conférence de presse. Et puis, quelques minutes après la fin de la conférence de presse, dépêche Reuters, les membres du comité de monétaire de la BCE sont très inquiets d'avoir un décalage avec la Banque Centrale Américaine, selon des sources Reuters naturellement non identifiées, mais qui cassent complètement tout le discours qu'avait tenu Madame Lagarde. Alors pourquoi? Alors c'est vrai que ça a été dit, la Banque Centrale tient compte de l'effet change, mais au pire, elle pourrait l'intégrer dans ses prévisions d'inflation. C'est-à-dire dire, voilà, j'ai un écart de taux, ça va coûter tant sur l'inflation en plus, mais si véritablement le mouvement de désinflation se poursuit en Europe comme on a actuellement,
ça va être gommé.
Je peux l'intégrer dans mes prévisions. Ce qui commence à vraiment faire peur les membres du comité de politique monétaire, c'est d'une part qu'ils ont vu que la Fed s'était engagée à baisser les taux et que la Fed a été prise complètement à contre-pied par les indicateurs d'inflation qu'elle a eu en début d'année. Et ce qui fait peur à certains membres, c'est qu'ils voudraient pas voir l'inflation réaccélérer dans les prochains mois en zone euro, alors qu'ils promettent une baisse des taux et à être aussi pris complètement à contre-pied par rapport à ce discours. Donc je dirais que la principale influence qu'a aujourd'hui la Banque Centrale Américaine, c'est plus peut-être, on verra à l'avenir, je ne suis pas totalement convaincu non plus, mais c'est peut-être plus cette erreur de communication à avoir peut-être annoncé trop vite des baisses de taux alors que les indicateurs économiques les ont pris à contre-pied. Et donc certains membres de la BCE ont plutôt réagi en disant il ne faut pas qu'on commence à annoncer au marché un cycle de baisse de taux. C'est pour ça qu'elle a dit à seulement au mois de juin et on verra ensuite. Elle veut pas se prononcer ensuite parce que derrière, il s'agirait pas de commencer à baisser les taux et voir l'inflation en Europe réaccélérer pour plein de raisons. Alors ça peut être le change, ça peut être le pétrole, ça peut être plein d'éléments qui feraient que les tensions inflationnistes reviendraient et ils seraient pris complètement à contre-pied. Donc c'est pour ça qu'elle va beaucoup communiquer s'ils doivent le faire. Ils le feront sûrement en juin parce qu'ils l'ont annoncé, mais en disant attention, ce n'est pas un cycle de baisse des taux parce qu'ils veulent pas être pris à contre-pied dans leur communication derrière. Et donc, c'est plutôt ça, à mon avis, qu'ils ont appris du côté de la Fed.
La réunion du 6 juin. Kevin, est-ce qu'on a en Europe un risque de reprise de l'inflation? Christine Lagarde parle de bosse d'inflation. Aux États-Unis, c'est plus une bosse, c'est plus marqué.
L'inflation, elle réaccélère aux États-Unis.
Oui.
C'est-à-dire que quand on a vu ce fameux pivot de la réserve fédérale américaine à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui avait vu les taux d'intérêt baisser fortement et les estimations du marché de baisse des taux accélérer, on avait bien un phénomène de désinflation qui était important. Ce qui se joue depuis 3-4 mois, c'est qu'on a une réaccélération de l'inflation. Ça, je crois que c'est un phénomène qui est quand même tout à fait important. Vous soulignez que la Banque Centrale Européenne se disait dépendante des données. Il y a une séquence de données qui est importante. On va voir le détail des publications du PIB en zone euro au cours du mois à venir. On va voir aussi les résultats des négociations salariales également. C'est aussi un facteur très important.
Bien sûr, l'évolution des salaires, les fameux effets de second tour.
Et quand une banque centrale vous dit qu'elle est dépendante des données, c'est pas une vue de l'esprit, c'est qu'elle se dit vraiment et qu'elle pense vraiment être dépendante des données. Donc il faut bien avoir ces données et l'intégralité de ces données pour pouvoir décider. Est-ce qu'il y a un risque de réaccélération de l'inflation? On a parlé du change, je crois que le pétrole s'en a un autre. Là aussi, si je regarde quelle est la correspondance. Un mouvement de 10% de hausse sur le pétrole, ça contribue à 0,25% sur de l'inflation, et ça vient relativement rapidement. Donc oui, ce mouvement-là existe bien, il y a bien ce risque-là. Après, en Europe, on n'a pas une croissance économique qui est au-dessus du potentiel. Ça fait un an et demi qu'on est dans un environnement de stagnation, et ça a vraisemblablement eu raison de la composante la plus cyclique de l'inflation.
Vous avez entendu la cloche, on est à 10 minutes du fixing sur le marché parisien. Aude, on progresse de 0,22% sur le CAC. À ce rythme-là, on se demande si on va finir dans le vert.
Ouais, ça fond comme neige au soleil, c'est vrai. Nos gains de ce matin, on n'est plus qu'à 0,2%. Et ce qui grimpe en revanche en flèche, c'est quand même ce qui se passe sur le marché obligataire, hein, avec les taux. On a le taux de 2 ans américain qui s'approche très dangereusement, hein, à des 5%. On est à 4,94%. Et le taux de 10 ans, lui, il est aussi très élevé, hein, 4,63%. On a tout de même pris 11 points de base, hein, ces dernières heures. C'est un beau mouvement, hein, plus une hausse de cette ampleur. Alors c'est dû plus finalement encore à ce questionnement, hein, sur la baisse des taux, et finalement cette donnée économique qu'on a eue aux États-Unis aujourd'hui sur les ventes au détail qui sont restées très élevées, que là aussi au contexte géopolitique qui ne semble pas nous toucher, ce risque d'escalade pour l'instant qui est mesuré. Donc pour le moment ça monte sur l'obligataire. On peut se préparer, c'est effectivement, à franchir cette barre des 5% dans un monde où on n'a pas de baisse de taux cette année, ou alors des baisses très tardives.
Merci beaucoup, Aude. On se retrouve dans quelques minutes pour le fixing justement sur le marché parisien.